Vous écoutez, on lit pour vous.
Dangereux, les édulcorants. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 août 2024 dans la presse. Une lectrice, Camille Adam, demande « Est-ce que les édulcorants sont dangereux pour la santé? » Il y a de plus en plus de preuves que oui. De plus en plus d'études montrent des effets néfastes pour la santé des aliments ultra-transformés, notamment des édulcorants, explique Rémi Rabaza-Loret, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM. Mais la liste des édulcorants est longue et il faut encore en savoir plus. Ils sont tous différents. On a du mal à imaginer un mécanisme commun pour ces effets néfastes. En septembre 2023, dans la revue Diabetes Care, une étude a montré que l'utilisation élevée d'édulcorants augmentait de 60 % le risque de diabète de type 2 sur une période de suivi de 9 ans. La taille de l'échantillon est remarquable, 100 000 personnes, et plusieurs tests ont été faits pour voir s'il s'agissait vraiment d'un lien causal, selon le Dr Rabaza-Loret. Les auteurs français de l'étude de Diabetes Care préviennent qu'il est possible que les gens qui prennent beaucoup d'édulcorants le fassent pour contrer des habitudes alimentaires néfastes. Cette étude portait sur une dizaine d'édulcorants, dont l'aspartame, le sucralose et la saccharine. Ces produits, faibles en calories, sont notamment utilisés dans les boissons et aliments qualifiés de diète. Le diabète de type 2, dont un facteur de risque est l'obésité, est dû à une mauvaise utilisation de l'insuline par le corps. Il représente 90 % des cas de diabète. Une autre étude, publiée en 2023 dans Advances of Nutrition, notait que les édulcorants sont liés à divers types de problèmes de santé. 25 % plus de mortalité cardiovasculaire, deux fois plus de problèmes rénaux, 13 % plus de cancer, 51 % plus d'obésité, 24 % plus de diabète et 22 % plus d'AVC. Il s'agissait d'une méta-analyse de plusieurs études sur le sujet. Le Dr Edward Giovannucci, épidémiologiste de l'Université Harvard et auteur principal de cette dernière étude, confirme que la diversité biochimique des édulcorants complique l'analyse. Ils sont si différents qu'il est peu probable que les mêmes mécanismes néfastes soient en jeu, dit le Dr Giovannucci. Souvent, les effets, notamment pour le cancer, sont faibles sur le plan individuel, note le chercheur de Boston. Un effet de 13 % pour le cancer est important au niveau de la population. Mais avec un risque relatif aussi faible, il est difficile d'exclure les facteurs confondants. Dans certains cas, les études semblent montrer que les gens qui prennent beaucoup d'édulcorants suivent aussi beaucoup de régimes, donc perdent et reprennent du poids régulièrement, ce qui peut être néfaste pour la santé. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé d'éviter les édulcorants pour tenter de perdre du poids, les diabétiques étant exclus de cette recommandation. Pour le diabète, certains chercheurs avancent que les édulcorants stimulent les mêmes récepteurs que le sucre et donc augmentent le désir de consommer certains aliments néfastes ou même modifient le métabolisme. C'est une hypothèse valide. Des études ont suggéré qu'après avoir mangé des édulcorants, on a des rages de sucre, dit le Dr Rabaza-Loret. Style de vie. Le Dr Rabaza-Loret rappelle que des modifications de style de vie se sont montrées efficaces pour réduire de 60 % le passage du prédiabète au diabète de type 2. Exercice, perte de poids de 5 à 10 %, manger plus de fruits, de légumes et de poissons et moins de gras et de viande. On peut tout aussi bien diminuer notre consommation de produits ultra-transformés dans le cadre des changements à notre alimentation. La prochaine étape, selon le Dr Giovannucci, est de déterminer les mécanismes pouvant lier les édulcorants à des problèmes de santé. Il se peut, selon lui, qu'il s'agisse de problèmes de microbiote ou alors d'inflammation. C'était « Dangereux, les édulcorants », un texte de Mathieu Perrault, paru le 18 août 2024 dans La Presse.
Homme à chat, un texte de Stéphane Laporte, paru le 4 août 2024 dans La Presse. Lors d'une entrevue accordée en 2021, le colistier de Donald Trump, l'ineffable J.D. Vance, a qualifié l'actuelle vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, de femme à chat. Ah bon? Vraiment? Pour ma part, ça me la rend encore plus sympathique. Mais ce n'était pas l'intention de J.D., au contraire. En passant, J.D., c'est pour « J'aime Donald ». Traiter quelqu'un de « Cat Lady » est une insulte misogyne et méprisante qui remonte à loin. J'ai fait mes recherches. Dans l'Égypte antique, le chat était le symbole de la féminité, personnifié par la déesse Bastet, au corps de femme et à la tête de félin. C'était la représentation du pouvoir féminin, un pouvoir menaçant que le mâle voulait réprimer. Au Moyen Âge, on associe les chats aux femmes marginales accusées de sorcellerie que l'on brûle sur le bûcher. Le chat est un animal domestiqué, mais pas complètement, qui reste indépendant, qui n'obéit pas comme un pitou. Bref, une mauvaise influence pour la compagne du dominant. Dans la culture populaire, de Dickens aux Simpsons, il y a plein d'exemples de vieilles dames solitaires étranges, souvent entourées de chats. Des femmes qui, selon des étroits d'esprit, ont raté leur vie puisqu'elles n'ont pas réussi à se marier ni à avoir d'enfants. Le fond du propos de Vance est là. Citons sa déclaration. Nous sommes dirigés dans ce pays, via les démocrates, par une bande de dames à chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu'elles ont faits et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux lui aussi. Le chat sort du sac. Révoltant. Le candidat républicain à la vice-présidence en veut aux gens sans enfants qui, pour lui, valent moins que les parents. Il prétend que les personnes les plus dérangées et les plus psychotiques sont celles qui n'ont pas d'enfants. Selon lui, les dirigeants sans enfants finissent par rendre l'ensemble du pays plus susceptible de devenir mentalement instable. Rien que ça. Quelle théorie tordue! Qui ne respecte pas les coups du destin et les choix personnels? Ça veut dire que selon J.D., J.C. ne pourrait pas diriger les États-Unis. Le plus ironique avec le raisonnement de Vance, c'est que Kamala Harris n'est même pas une femme à chat sans enfant. D'abord, elle est la belle-mère auprès des deux enfants de son mari, issus d'une première union. Puis, j'ai eu beau pousser mes recherches et interroger l'intelligence artificielle, je n'ai jamais su si Kamala avait des chats ou pas. Bref, J.D., c'est pour « je divague ». Si les inepties de Vance ne s'appliquent pas à la vice-présidente des États-Unis, elles me visent davantage. Je n'ai pas d'enfant et j'ai un chat. Je suis donc un homme à chat. Et plutôt que prendre la défense des hommes à chat, j'aimerais, après avoir dénoncé haut et fort l'odieux des propos tenus par Vance envers Kamala Harris et toutes les femmes, prendre la défense des grands oubliés de cette polémique, les chats. Non, mais c'est vrai. Pourquoi les chats ont-ils toujours le mauvais rôle? Pourquoi une personne à chien, c'est correct? Mais une personne à chat, ce ne l'est pas? Pourquoi une personne à chat est-elle suspecte dans la littérature? Pourquoi, dans les films, le despote flatte-t-il un matou et pas un pitou? Pourquoi tous ces préjugés entourant la relation humain-félin? Bien sûr, le rapport avec un chat n'est pas aussi évident que celui qu'on a avec un chien. Ce n'est pas le maître et le maîtrisé. Un chat ne vous apporte pas vos pantoufles, ne vous ramène pas la balle, ne renifle pas la drogue dans des valises, ne retrouve pas les skieurs ensevelis sous une avalanche. Un chat ne fait pas ça. Mais un chat fait chat. Un chat se promène sans laisse et revient sans vous laisser. Il n'a besoin de personne pour faire ses besoins. Un chat ne se fait pas dresser. On ne lui dit pas assis, debout, couché. Il le fait quand ça lui plaît. Vous pouvez être des heures sans le voir, puis il vient ronronner à 2 pouces de votre nez. Je ne t'ai pas oublié. Un chat n'est pas votre bébé. Un chat est votre ado. Il a besoin de vous, parfois. Mais il a aussi besoin de pas vous, des grands bouts. Il n'habite pas chez vous. Vous habitez ensemble. Il est sur le même pied que vous ou sur la même patte. Il vous apprend qu'un lien, ce n'est pas fait pour retenir, c'est fait pour s'envoler et se retrouver. Bref, les gens à chat sont très aptes à gouverner parce que leur animal de compagnie leur a appris qu'il n'y a pas de solidarité sans liberté. Voilà. Vive les femmes à chat, vive les hommes à chat et vive les chats. C'était « Homme à chat », un texte de Stéphane Laporte, paru le 4 août 2024 dans la presse.
Héros de notre histoire, Pierre Salducci. Un texte de Serge Fizette, paru le 16 juin 2024 dans le magazine Fugue. Né à Rouen, France, en 1960, Pierre Salducci, Vuillemin, s'installe au Québec en 1989. Il y séjourne durant 15 ans et devient citoyen canadien. « Le fait de vivre à Montréal, affirme-t-il, m'a rendu très militant, alors que je ne l'étais pas du temps où je vivais en France. » Ce militantisme l'amène à œuvrer activement au sein de plusieurs associations gays et dans la lutte contre le sida. Il est notamment directeur du Centre communautaire des gays et lesbiennes de Montréal, CCGLM, membre et animateur de l'Association des lesbiennes et des gays de l'Université du Québec à Montréal, ALGUCAM, et intervenant chez Action 00, qui est devenu Réseau. Dans le témoignage qu'il livre à Mireille Bertrand pour le recueil « L'obstacle d'une différence, paroles de gays, réflexions et confidences », il précise « Grâce à mon homosexualité, j'ai été amené à réfléchir très tôt à certaines notions comme les rapports majorité-minorité, l'injustice, les rapports de force et le pouvoir, le statut des minorités, etc. Je crois que ça a fait de moi un être plus conscientisé. » En parallèle à son action communautaire, c'est dans le domaine de la culture que Pierre Salducci se fait surtout connaître, à la fois comme attaché de presse, rédacteur, romancier, essayiste, critique littéraire, webmestre, évaluateur de scénarios de films à la SODEC et chroniqueur pour des émissions de radio et de télévision. Il a travaillé dans plusieurs maisons d'édition, dont XYZ et les éditions Stanké, où de 1998 à 2001, il fonde et dirige la collection « L'heure de la sortie », qui se spécialise dans la littérature gay. Il y publie des auteurs importants comme Jean-Paul Daou, « Le désert rose », et en 1999, coordonne la parution « D'écrire gay », un recueil regroupant plusieurs auteurs. La même année, il réédite « Derrière le sang humain », en donnant le véritable nom de l'écrivain Robert Pelchat. Dans sa présentation, il souligne le côté précurseur de l'auteur et la dimension avant-gardiste du roman paru dans les années 50. Toujours dans le domaine de l'écriture, il est cofondateur du premier festival des littératures homosexuelles, de même qu'il crée et anime les rencontres littéraires des livres et des hommes, permettant à plusieurs auteurs de mieux faire connaître la littérature homosexuelle actuelle. En 2003, il met sur pied l'organisme international L'Union des écrivains gays avec l'objectif de diffuser la littérature à thématique gay. Il agit également à titre de rédacteur en chef de laréférence.info, un cybermagazine sur la littérature gay et lesbienne. Toutes ces activités ne l'empêchent pas de s'adonner lui-même à l'écriture en réalisant de nombreux romans, essais, biographies et recueils de nouvelles, dont « Souvenirs inventés »,« Retour sur les années d'éclipse », Journal de l'infidèle ou le présent à tout prix, Nous tous déjà morts, Ma vie me prend tout mon temps, et en 2002, Un condamné à vivre s'est échappé, un entretien avec l'écrivain Yves Navarre. En 2005, il retourne en Europe et ouvre son agence littéraire visant à aider des auteurs à publier leurs livres. Puis, il part s'installer à Gran Canaria, Île Canarie, une île gay-friendly au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. En plus d'agir comme rédacteur en chef du site Ici Gran Canaria et éditeur du guide gay local Dunas Map, il est à l'origine du Dunas Festival, un festival socio-culturel gay axé sur les livres et la création en général. Enfin, il renoue avec son ancienne expérience d'enseignant en lançant le site coachinggay.com, un service de coaching en ligne dédié aux gays. « Mon objectif, précise-t-il, n'est pas de rendre les gens plus riches ou plus performants, mais de les rendre plus heureux et plus épanouis. C'est la dimension humaine qui m'intéresse. » C'est cette dimension et bien d'autres que l'on pourra découvrir sur ce héros de notre histoire en consultant aux Archives gays du Québec le fonds Pierre Salducci, comprenant des photographies ainsi que des documents textuels et audio. C'était « Héros de notre histoire », Pierre Salducci, un texte de Serge Fizette paru le 16 juin 2024 dans le magazine Fugue.
Deux jeunes adultes peuvent-ils toujours acheter une propriété en Saskatchewan? Un texte de David Hull avec les informations d'Aishwarya Duda paru le 14 août 2024 sur Ici Saskatchewan. L'accès à la propriété pour de jeunes Saskatchewanais est de plus en plus restreint selon des experts. Ces derniers estiment que les jeunes acheteurs doivent dorénavant recevoir de l'aide de leurs parents, avoir un mode de vie austère ou augmenter leurs revenus de manière considérable pour pouvoir s'acheter une maison. Citation : Une personne gagnant 70 000 $ par an peut-elle économiser 15 000 $ en un an? Je ne le crois pas. Fin de citation, soutient Dennis Carson, qui est conseiller financier. Il affirme qu'une personne qui a un salaire annuel de 70 000 $ devrait épargner 500 $ par mois pendant au moins 3 ans pour avoir une mise de fonds de 18 000 $ avant d'acheter une maison de 300 000 $ à Saskatoon. M. Carson indique qu'il existe des produits financiers, comme le compte d'épargne d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAP, qui permet aux acheteurs de mettre de côté 8 000 $ non imposables par an jusqu'à un plafond de 40 000 $ à vie pour l'achat d'une première maison. Citation : Le grand avantage de ce programme est qu'il vous permet de récupérer de l'argent sur votre impôt sur le revenu. Par exemple, si vous gagnez 60 000 $ vous vous situez dans une tranche d'imposition de 33 %. Donc, pour chaque millier de dollars que vous investissez dans ce fonds, vous récupérez 330 $. Fin de citation, précise le conseiller financier. Des années de sacrifice. Sarah Radke, une résidente de Saskatoon, a récemment acheté sa première propriété après des années d'épargne et de sacrifice. Citation. C'est à la fois excitant, angoissant et effrayant. Fin de citation, affirme la jeune femme de 23 ans. Sarah Radke a économisé pendant près de 10 ans en effectuant plusieurs emplois pendant ses études à l'école secondaire et à l'université. Jusqu'à tout récemment, elle économisait 90 % de ses revenus pour effectuer une mise de fonds. Citation. Je suis vraiment chanceuse d'avoir pu vivre à la maison pendant si longtemps et d'avoir pu économiser autant d'argent. Ensuite, j'ai pu trouver du travail et j'ai pu économiser. Fin de citation, dit Sarah Radke. Elle occupe deux postes et gagne un total de 75 000 $ par an. Son emploi principal lui rapporte 65 000 $, tandis qu'un emploi qu'elle occupe la fin de semaine lui rapporte une somme de 10 000 $ supplémentaires. Le coût total de sa maison est de 272 000 $. Elle a effectué une mise de fonds de 20 % soit 55 000 $, et le montant de son prêt hypothécaire est de 1 264 $ par mois. La période d'amortissement de son hypothèque est de 25 ans. Elle a obtenu un taux d'intérêt de 4,99% fixé pour une durée de 5 ans. Sarah Radke avoue que ses sacrifices n'ont pas toujours été faciles à faire, car elle a dû habiter chez ses parents avant d'acheter sa propre maison. Citation. C'est nul d'être à l'école secondaire et de ne pas pouvoir sortir avec ses amis, d'être à l'université et de ne pas pouvoir aller boire un verre avec ses copains, de ne pas pouvoir partir en voyage parce qu'on économise. Fin de citation, dit-elle. L'état du marché immobilier à Saskatoon. À Saskatoon, le prix moyen d'une maison a atteint 406 500 $ en juillet. L'analyste du marché immobilier Josh Buchanan indique que des maisons se sont vendues à des prix historiques au cours de l'été 2024. M. Buchanan affirme que l'offre en matière de propriété à Saskatoon est à son plus bas depuis 16 ans. Citation. Cela affecte les prix parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui veulent acheter et qu'il n'y a pas beaucoup d'options disponibles. Fin de citation, souligne Josh Buchanan. Il estime que les récentes réductions des taux d'intérêt par la Banque du Canada renforcent également la confiance des consommateurs et les incitent à revenir sur le marché. C'était « De jeunes adultes peuvent-ils toujours acheter une propriété en Saskatchewan? » un texte de David Hull avec les informations d'Aishwarya Duda, paru le 14 août 2024 sur Ici Saskatchewan.
$21 000 à payer pour avoir tenté de forcer leurs petits-enfants à les visiter. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 22 juillet 2024 dans Le Devoir. Des grands-parents en conflit avec leurs enfants viennent d'être condamnés à leur rembourser $21 000 de frais judiciaires des dépenses engendrées par le recours abusif des premiers aux tribunaux afin d'obtenir le droit de voir leurs petits-enfants, même si ces derniers s'y opposaient. C'est sans aucune hésitation que le tribunal déclare que les grands-parents utilisent la procédure civile de manière abusive, peut-on lire dans la décision. Dans une action entamée en 2021, les grands-parents réclamaient l'accès à certains de leurs petits-enfants. Elle ne concernait que les enfants biologiques de leurs enfants et excluait donc la belle-fille de un de leurs fils. Les noms de toutes les personnes impliquées dans ce dossier sont protégés par la justice. Il est contre nature qu'un grand-parent force l'affection de ses petits-enfants à coups de courriel, de mise en demeure et de poursuite judiciaire, a indiqué le juge Éric Dufour dans sa décision. Rencontrés individuellement par une avocate, les trois petits-enfants au cœur du litige ont sensiblement tous indiqué la même chose. Ils ne voyaient pas l'intérêt de renouer avec leurs grands-parents. Ils poussent pour qu'on les voie, mais ça ne me tente pas, a affirmé l'un des jeunes à l'avocate. Au terme de ces rencontres, un rapport a été soumis au tribunal, un document que la grand-mère a indiqué ne pas avoir lu et que le grand-père n'a lu qu'à l'avant-dernier jour d'audience. La justice a déterminé qu'à la lumière des témoignages des petits-enfants, il n'est pas dans le meilleur intérêt de ces derniers de maintenir ou de développer des liens avec les grands-parents. En cas de conflit insoluble, entre parents et grands-parents, c'est aux tribunaux que revient la décision d'accorder ou non un droit de visite à ces derniers lorsqu'un enfant de moins de 14 ans est au cœur du litige, bien que ses volontés doivent être prises en compte dès l'âge de 10 ans. À partir de 14 ans, un enfant peut décider par lui-même de cesser tout contact avec ses grands-parents. Dans le cas présent, les enfants étant âgés de 14, 11 et 10 ans, leur désir de ne pas entretenir de lien avec leurs grands-parents a lourdement influencé la décision. Le meilleur intérêt d'un enfant doit demeurer au centre des décisions prises à son égard, et son consentement à des contacts avec ses grands-parents pèse pour beaucoup alors qu'il a 10 ans et plus. Il s'avère même nécessaire à partir de 14 ans, explique le juge Éric Dufour. Le grand-père a de son côté remis en question le refus des enfants de maintenir des liens avec lui. Des doutes infondés, selon le tribunal, qui a pointé du doigt cette instance, parmi d'autres, comme démonstration de la mauvaise foi du demandeur. Le grand-père agit même de mauvaise foi, lui qui ne cherche par ce recours qu'à maintenir son autorité et ses vues sur ses fils, explique le juge dans sa décision. À l'origine de la dispute. En 2017, le grand-père avait fait part à l'un de ses fils de sa désapprobation du « mode de vie » de son autre fils, une référence à la famille reconstituée de ce dernier. Il rejetait par ailleurs la belle-fille de celui-ci puisqu'elle n'était pas de son sang. Les deux fils ont soutenu avoir été choqués par ses propos. Après plusieurs tentatives infructueuses de réconciliation, ils ont décidé de ne plus entrer en contact avec leurs parents. Insistant, le grand-père a multiplié les démarches pour voir ses petits-enfants, simulant des rencontres au hasard dans des parcs où il jouait régulièrement. Et au début des vacances des fêtes de 2021, alors que les parents refusaient toujours de leur octroyer un droit de visite, les grands-parents ont entamé des procédures judiciaires. Le juge Dufour a déterminé qu'une réparation appropriée pour l'abus de la procédure civile par les grands-parents serait le paiement des déboursés et des honoraires judiciaires de leur fils à la hauteur de 20 000 $ et l'imposition de dommages punitifs de 1 000 $. Compte tenu de l'importance donnée au consentement des enfants dans la loi, on devine l'incohérence du message à la population qu'enverrait le tribunal d'un jugement ne condamnant pas un comportement comme celui du grand-père, mentionne par ailleurs le juge Éric Dufour dans sa décision. C'était 21 000 $ à payer pour avoir tenté de forcer leurs petits-enfants à les visiter. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 22 juillet 2024 dans Le Devoir.